Everything changed. It had to. Gone were their heroes, their stars, all the records they'd made. Yet among the ashes, an ember still burned. Dimanandi.
Tous les vendredis à 17h10 sur RFI.fr.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Ce vendredi 3 avril, l'administration Trump poursuit sa purge au sein de l'armée aux États-Unis. Trois officiers écartés, dont le chef d'état-major de l'armée de terre, décision du secrétaire à la défense, qui a déjà mis de côté plusieurs hauts gradés, souvent des Afro-Américains, souvent des femmes. Pete Hegseth est en train de modeler son armée idéale, blanche, chrétienne et virile. On en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Des mouvements au plus haut de l'armée américaine alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient. Donald Trump menace de nouveau l'Iran, comme il l'avait fait en fin de semaine dernière et les précédentes. Généralement, le ton change au cours de la semaine lorsque les cours du pétrole montent trop. Le brut se vend pourtant très cher ces jours-ci, fait l'objet de spéculations et cela se sent partout dans le monde. Certains pêcheurs français, par exemple, ne sortent même plus, pas assez rentables vu le prix du carburant.
Normalement, je devrais être en mer. Mais là, avec les circonstances, la flambée du gasoil, on a préféré stopper pour se mettre en arrêt technique, pour faire l'entretien, les pâtures. Là, ça va faire la deuxième semaine qu'on est stoppé.
Reportage dans le grand port de pêche de Boulogne-sur-Mer à écouter dans une demi-heure.
RFI midi.
Au sommaire également, un accord pionnier en Espagne pour verser des indemnisations aux victimes d'agressions sexuelles dans l'Église, conclu entre l'institution catholique et le gouvernement. Et il était temps, disent les associations.
Cet accord survient un peu tard pour nous. Les victimes n'ont reçu aucun soutien durant trop de temps. Durant 20, 30 ou 40 années, elles ont vécu avec ce traumatisme et ont fait face à un silence et un obscurantisme d'une institution qui a tout fait pour nier, remettre en doute leurs paroles et occulter des faits et des crimes commis à l'intérieur de l'Église.
Reportage dans quelques minutes et analyse avec un journaliste du quotidien El País, mobilisé depuis des années sur cette question des crimes de la pédocriminalité dans l'Église. Voilà pour le programme, une partie du programme. Bienvenue. Et on commence par le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit depuis quelques jours. Moscou semble adopter une nouvelle stratégie.
En plus d'envoyer des centaines de drones et des dizaines de missiles la nuit, ces attaques se poursuivent désormais en plein jour. C'est ce qui se passe aujourd'hui et on en parle tout de suite avec notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Karine.
Cette attaque est en cours en plein jour. Est-ce qu'on a déjà une idée de son ampleur ?
Alors oui, des centaines de drones kamikazes ont été lancés aux premières heures du jour par la Russie, par vagues successives et combinées avec des décollages d'avions de chasse porteurs de missiles. Pour le moment, les autorités ukrainiennes font état de près de 500 drones qui ont été lancés. Au moins une personne est morte dans la région de Kiev où un immeuble résidentiel a été touché. Il y a plusieurs personnes blessées et on apprend qu'un drone s'est écrasé sur une clinique vétérinaire où au moins 20 animaux sont morts. C'est la troisième fois en 10 jours jours qu'une telle attaque se déroule en plein jour. C'est une stratégie qui ne remplace pas, mais qui prolonge les attaques qui ont lieu la nuit. Celles-ci sont toujours quotidiennes. Outre Kiev, étaient visées aujourd'hui les régions centrales de Cherkassy, Poltava, Jytomyr. Et pour le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, ces frappes en plein jour sont la réponse de la Russie aux propositions ukrainiennes de trêve, Pascal.
Et dans l'est du pays, les régions de Soumy et de Kharkiv ont également été durement touchées ces dernières heures, Emmanuel.
Oui, Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine avec 1,3 million d'habitants, a été frappée par plusieurs missiles balistiques en plein centre-ville. Là aussi, plusieurs personnes ont été blessées, tandis qu'à Soumy, c'est un centre commercial qui a été visé par des drones. 3 personnes ont été blessées. Dans cette même région de Soumy, on compte 1 mort et 4 blessés dans la ville de Chotska suite à des attaques russes à l'aide de bombes aériennes guidées. Les régions de Soumy et Kharkiv, partiellement occupées par la Russie et situées sur la ligne de front, sont particulièrement vulnérables à ce genre d'attaque.
Emmanuel Chaz, en direct de Kiev, et à l'instant, le président Volodymyr Zelensky dénonce une nouvelle escalade.
La guerre sévit aussi au Moyen-Orient et les prochaines cibles iraniennes ont été désignées par Donald Trump.
L'armée américaine va se concentrer sur les ponts et les centrales électriques du pays, alors que le président américain a assuré que les bombardements vont encore se poursuivre plusieurs semaines. Depuis les premières frappes israélo-américaines fin février, plusieurs infrastructures civiles ont déjà été touchées, Nathanaël Vitran.
Dès les premières heures, un tir de missile imputé aux États-Unis avait touché une école à Minab, au sud du pays, tuant 175 élèves. Une erreur de ciblage du Pentagone, d'après le New York Times. Mais depuis, plusieurs infrastructures civiles ont été délibérément ciblées en Iran. Des quartiers résidentiels frappés alors qu'Israël et Washington cherchaient et sont en partie parvenus à décapiter le régime. Le Croissant Rouge iranien parle de 90 000 maisons détruites, dont la moitié à Téhéran. En début de semaine, le gouvernement iranien signalait des frappes contre une usine de production de médicaments, notamment contre le cancer. Des usines sidérurgiques ont également été touchées dans la région d'Ispahan, mais aussi plusieurs sites énergétiques. Des frappes visant des infrastructures civiles qui pourraient être assimilées à des crimes de guerre, comme le rappelait dans le contexte de la guerre en Ukraine le Comité international de la Croix-Rouge. Si les conventions de Genève ne mentionnent pas explicitement les sites énergétiques comme des infrastructures civiles à préserver du combat, l'organisation humanitaire rappelle qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement de toutes les autres, notamment les hôpitaux et les réseaux de distribution d'eau et de nourriture.
Nathanaël Vitran.
De l'autre côté, les Iraniens visent aussi les infrastructures énergétiques.
Nouvelle frappe de missiles et de drones au Koweït. Une usine électrique et de dessalement est touchée. En Israël, des missiles ont visé Tel Aviv et Elat dans le sud. Missiles tirés d'Iran et du Yémen, également par les rebelles houthis.
La crise énergétique continue aussi avec la paralysie quasi totale du détroit d'Ormuz.
Les cours mondiaux du pétrole flambent toujours. Une quarantaine de pays appellent à la réouverture immédiate et inconditionnelle de ce passage stratégique et évoque de possibles nouvelles sanctions contre l'Iran. Mais un vote prévu aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU est reporté. La résolution prévoit d'user de la force pour libérer le détroit d'Ormuz.
Et c'est ce moment que Donald Trump a choisi pour limoger un nouveau très haut gradé.
Il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George. La raison de ce départ soudain n'a pas été communiquée, mais il avait été nommé par son prédécesseur, Joe Biden, comme beaucoup de responsables de l'armée, dont les chefs de la Marine et de l'agence d'espionnage NSA poussaient eux aussi vers la sortie depuis le retour de Donald Trump au pouvoir.
Donald Trump a aussi limogé sa ministre de la Justice, pourtant l'une de ses fidèles.
Pam Bondi avait été très critiquée pour sa gestion de l'affaire Epstein, mais il semblerait que le président lui reproche davantage l'échec de plusieurs poursuites pénales contre des cibles désignées par ses soins. Donald Trump a nommé l'un de ses anciens avocats personnels pour assurer l'intérim à la justice.
Toujours sous pression américaine, le gouvernement cubain a annoncé avoir gracié plus de 2000 des détenus.
Un geste humanitaire et souverain, assure La Havane, qui intervient à l'occasion de la semaine de Pâques.
Au Pakistan, un kamikaze au volant d'un véhicule rempli d'explosifs a tué au moins 3 femmes et 2 enfants dans le nord-ouest du pays.
L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Islamabad accuse Kaboul de ne pas réussir à maîtriser des groupes armés qui utiliseraient le sol afghan pour planifier et lancer des attaques au Pakistan voisin.
Emmanuel Emmanuel Macron termine aujourd'hui sa mini-tournée en Asie.
Comme au Japon, le président français a plaidé en Corée du Sud pour la formation d'une coalition face à l'hégémonie de la Chine et à l'imprévisibilité du président américain. Une coalition des indépendants qui réunirait les pays européens, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et quelques grands pays émergents comme l'Inde et le Brésil.
À Paris, c'est la priorité absolue de son début de mandat.
Le nouveau maire socialiste de la capitale française, Emmanuel Grégoire, l'a promis et annonce un vaste plan de lutte contre les violences physiques et sexuelles dans le milieu périscolaire. Les cas se multiplient dans les écoles de Paris depuis plusieurs mois. Le temps périscolaire, c'est le temps passé par l'enfant à l'école, mais en dehors de la classe, pendant des heures de loisirs notamment. 78 animateurs périscolaires ont été suspendus par la ville de Paris depuis le début de l'année, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles, d'après Emmanuel Grégoire, qui annonce plusieurs dispositifs d'écoute destinés à lutter contre les violences sur les enfants. Emmanuel Grégoire.
Ces chiffres doivent nous amener à une remise en cause profonde, totale. Il faut tout revoir depuis le début avec un objectif, la tolérance zéro. Mais parce qu'on ne peut pas être jugé parti, je vous confirme que je souhaite la mise en place d'une commission indépendante qui puisse réaliser un examen complet de nos procédures de recrutement, de nos procédures de signalement, de nos procédures de contrôle. Nous lui donnerons accès à tout et sa liberté de parole sera totale et je le sais, sa disponibilité avec les parents d'élèves. Mais nous devons protéger nos enfants aussi dès maintenant. Nous mettrons en place dans les prochains jours une cellule d'écoute qui permettra aux parents de nous signaler directement toute suspicion d'actes de violence commis sur leur enfant. Je souhaite également que soit déployé le plus vite possible des boîtes papillons qui permettent aux enfants de dénoncer par un simple mot ou même un dessin les violences qu'ils subissent à l'école, dans leurs activités ou à la maison. Et c'est en multipliant les dispositifs que nous arriverons collectivement à être plus efficaces.
Chez les militants dans les ONG, ont depuis le début de la guerre en Iran, le prix du pétrole à la pompe a bondi. En cause, la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz et les frappes sur les infrastructures énergétiques. Certains automobilistes en Europe dépensent jusqu'à 27 euros de plus qu'avant pour faire le plein. Et cet argent profite aux grandes compagnies pétrolières. Depuis trois semaines, elles génèrent plus de 80 millions d'euros de profits de guerre par jour dans les pays de l'Union européenne. Selon Greenpeace, Jeanne d'Abidjan, les demandes pour taxer ces super-profits se multiplient, notamment en France.
Chez les militants, dans les ONG ou dans les partis politiques, les super-profits font réagir. L'ONG Transport et Environnement œuvre à décarboner les transports et les carburants. Diane Strauss en est la directrice.
La demande de pétrole est la même, mais par contre l'offre se réduit, donc les prix augmentent. C'est cette différence de prix que captent les compagnies pétrolières.
Alors pour elle, mettre une taxe sur les super profits générés par Total Energy, Eni ou Shell, c'est la meilleure option.
Elle peut permettre d'être redistribuée sous forme d'aide aux ménages les plus vulnérables, mais aussi sous forme d'investissement pour décarboner et pour structurellement sortir de ce problème qu'est la dépendance au pétrole.
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Europe avait taxé les compagnies pétrolières, mais les 67 millions d'euros récupérés par la France avaient été réinjectés dans le budget global plutôt que dans la transition énergétique. Cette fois, Diane Strauss est plus optimiste.
Le gouvernement a l'air d'être plus allant sur l'idée d'accélérer vraiment l'électrification. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, puisqu'il faut vraiment répondre structurellement à notre dépendance aux carburants fossiles.
Cette semaine, le Premier ministre français a présenté une feuille de route sur l'électrification. Il envisage cette taxe, mais il n'a pas donné de date précise pour sa mise en application.
Enfin, la Suède a raisonné un navire en mer Baltique. Il est soupçonné d'avoir déversé du pétrole. Une nappe de plus de 10 km a été détectée au large de l'île suédoise de Gotland. Une enquête préliminaire a été ouverte pour suspicion de crime environnemental et une inspection à bord du navire a été menée.
Karine Belicha pour le journal. Comme chaque jour maintenant à cette heure-ci, la fabrique du monde. Guillaume Nodin, on va revenir avec vous sur la guerre au Moyen-Orient, les bombardements qui se poursuivent et les conséquences économiques dont on a parlé à l'instant, on les sent partout dans le monde, mais sur un continent en particulier, c'est l'Asie.
Oui, touché et même secoué ce continent asiatique par la crise pétrolière et la fermeture quasi totale, à de rares exceptions près, du détroit d'Ormuz. Il faut dire que 90% du pétrole importé par la Chine passe par le détroit et c'est même 95% 15% pour le Japon. Les deux pays ont des relations tendues ces derniers mois, en cause Taïwan, où la première ministre japonaise Sanae Takaishi a indiqué que son pays pourrait s'engager militairement en cas d'attaque chinoise. Les deux pays ont été mis devant le fait accompli par Donald Trump. Sanae Takaishi revendique pourtant une proximité idéologique avec lui. Et comme les alliés européens de l'OTAN, dont le Japon est un partenaire privilégié, et comme eux, il n'a pas été prévenu de l'intervention. Comme eux, le gouvernement s'est vu demander de participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Et comme eux, eh bien, il a dit non.
Il y a un autre pays de la région qui est dans ce cas-là, c'est la Corée du Sud.
Oui, le pays a également été mis devant le fait accompli et a reçu une demande de mise à contribution pour rouvrir le détroit. Pourtant, la Corée du Sud a conclu un accord commercial et stratégique avec Washington. Mais les relations ne sont pas toujours simples. En janvier, avant que sa politique de droits de douane soit retoquée par la Cour suprême, Donald Trump trouvait que la ratification de l'accord n'allait pas assez vite et il avait menacé son allié de le surtaxer avant que tout rentre dans l'ordre. La Corée du Sud est aussi en proie à l'hostilité et au développement du programme nucléaire de son voisin du Nord, qu'il a récemment renvoyé au rang d'ennemi le plus hostile du régime. Pyongyang dit au contraire pouvoir s'entendre avec les États-Unis. Lors du premier mandat Trump, le président américain s'était bien entendu avec Kim Jong-un et les deux hommes s'étaient rencontrés trois fois à l'automne dernier. Donald Trump semblait tout près de reconnaître le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord. Il y a donc de quoi inquiéter le Sud.
Et c'est dans ce contexte troublé et incertain qu'Emmanuel Macron est justement en tournée au Japon et en Corée du Sud.
Et pour le président français, l'occasion était belle d'être l'adulte dans la pièce. À Tokyo comme à Séoul, face aux attaques parfois personnelles et aux volte-face successives du président américain sur l'Iran et le détroit d'Ormuz, il a mis en avant sa constance depuis le début de la guerre pour ramener la circulation dans le détroit. La France est avec le Royaume-Uni à l'origine d'une initiative rassemblant plus de 30 pays pour rétablir la circulation après la fin des hostilités. Emmanuel Macron appelle aussi à la formation d'une coalition des indépendants entre démocraties pour faire face à l'hégémonie de la Chine et à l'imprévisibilité du président américain. Il insiste aussi sur la prévisibilité, au contraire de l'Europe, souvent vue comme un continent lent à s'adapter. Et...
Miskala pour informer les autres. Miskala pour directionner les autres.
Qu'ils en plaient, qu'ils en plaient pas. Miskala pour informer les autres.
Miskala pour directionner. Miskala pour diriger les autres, frère.
Qu'ils en plaient, qu'ils en plaient pas. Miskala pour informer les autres.
Le bandeur va faire la main. Les temps vous guérir qu'on y en a là.
Qu'ils en plaient, qu'ils en plaient pas. Miskala pour informer les autres.
Le bandeur va faire la main. Les temps vous guérir qu'on y en a là.
vous écoutez HDR.
Radio HDR.
Sur le 99.1 FM.
99.1 FM. Oh.